épisode 395, 395 pour nos compatriotes belges, puisque nous sommes entre compatriotes cette semaine pour cet épisode des Technos avec Sébastien à ma droite et David à ma gauche. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est un nouvel épisode des Technos, vous connaissez la formule maintenant je pense, ou en tout cas ça commence à, après 395 épisodes, ça commence tout doucement à rentrer dans les esprits. C'est une revue de presse, mais une revue de presse un tout petit peu particulière puisque on a retenu que ce que ces deux garnements ont envie de retenir et c'est leur opinion également qu'ils vont partager avec nous durant cet épisode qui s'articule autour d'un abécédaire parce qu'il fallait bien classer ces news dans un certain ordre et que c'est plus facile pour tout le monde, on va dire ça comme ça, dans la simplicité, tout simplement. Un épisode d'un petit peu moins d'une heure en général, hein, qui sera suivi d'un bonus, parce qu'il y a toujours des choses en plus à dire qui lui ne durera pas plus de 15 minutes, c'est promis. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Le laïus habituel, peut-être, hein? Amen. Les pouces, les étoiles, les commentaires, toujours bienvenus, évidemment. N'hésitez pas à en faire. Vous étiez nombreux la semaine dernière à nous laisser quelques commentaires sur tout ce que vous voulez, hein, sur les plateformes que vous voulez, YouTube, les plateformes de podcast, notre site, lestechno.be ou via les réseaux sociaux. Vous êtes évidemment les bienvenus. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien?
Oui, sur les commentaires, tu le sens bien. Tu vois, t'as l'intuition. C'est qu'effectivement, je vais en profiter pour remercier deux qui je n'ai pas pu répondre. Ça a été une semaine assez chaotique. Oui. Et donc, cette fois-ci, pour me souvenir des noms, j'ai téléchargé. Donc, tu as Eric, qui effectivement n'est pas barbu, mais est assez d'accord sur les sujets sur les développeurs russes, hein, qu'on avait cités la semaine passée. Et Nikoumok, qui m'appelle Pierre, mais donc je n'ai pas retenu, mais c'est écrit.
Ouais, voilà. Moi, je pense qu'il l'a fait exprès, hein.
Je pense. Voilà. Et donc ouais. Il fait de la moto, donc comme quoi, il pourra regarder maintenant nos épisodes en moto. Ce serait cool.
Oui. Ou les écouter. C'est plus
ouais,
prudent.
C'est plus prudent. Ouais.
Est-ce qu'il y a des choses à rajouter pour votre défense avant de commencer? Vous n'avez pas eu le temps de préparer? Vous êtes fatigué?
Oui.
Tout ça, évidemment. Mais, voilà. C'est l'instant de détente pour tout le monde. On l'espère pour vous qui nous écoutez aussi. Un moment où on peut un peu souffler et être de temps en temps un peu pas raisonnable et partir peut-être en vrille sur l'un ou l'autre sujet, même si c'est sérieux ou même si c'est pas sérieux, on verra bien ce qu'il en est. Avec la première lettre de notre abécédaire cette semaine, on commence directement par la lettre E et on parle de crypto, d'Ethereum pour être concret, les retraits du stacking de l'Ethereum 2 pour Chapella. Ça, merci, ouais. Merci Seb pour qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un lancement pareil?
Chapella. C'est voilà. Entre avril et mai, tu vois.
C'est ça. C'est un chouette sujet, donc restez avec nous. Hein. Il y a d'autres trucs après, mais je t'en prie.
Donc ça me fait presque penser à David, hein, parce que Chapella, si tu vois, lui, c'était pas loin d'un pseudo qu'il a longuement utilisé.
Oui, effectivement.
Voilà. Et donc Chapella, ils ont toujours des noms un peu tarabiscotés sur toutes les releases. Ça doit vouloir dire quelque chose. Je sais pas si vous avez regardé, je n'ai pas regardé. Pourquoi pas? Dites-le dans un commentaire, on peut toujours en discuter. Ici c'est Hard Fork, donc c'est une nouvelle release de Ethereum qui va arriver, qui sera prévue normalement pour le 12 avril. Ce qui est important, puisqu'on n'en parle pas souvent, ils en font plein. Qu'est-ce qui est important réellement sur celle-ci, c'est que c'est la release qui va enfin permettre de déstacker. Donc depuis un bail, je pense que c'est il y a presque 2 ans, ils ont proposé de faire du stacking sur Ethereum pour dire ah, en fait vous bloquez votre Ethereum pour Ethereum 2, mais vous allez recevoir des gains en échange, un petit peu d'Ether par-ci par-là. Sauf que si vous les mettez sur la chaîne, comme on n'a pas encore prévu le code pour les enlever après, eh bien vous les avez mis et ça reste bloqué. Et donc maintenant ils ont fait le code pour pouvoir les débloquer. C'est prévu pour le 12 avril à, je sais plus quelle heure exactement, à 10h27 UTC, après-midi. C'est précis.
C'est précis. Hein, ils ont décidé de ça sur le base, comme pour le nom, en fait.
Ouais, mais c'est statistique parce que c'est sur le bloc. Maintenant, on va passer sur époque 194-1048. Donc, voilà, c'est prévu à cette heure-là.
Voilà.
Et alors, c'était prévu à la base sur la release précédente, sauf que, il n'y avait pas suffisamment de validateurs qui avaient encore mis à jour. Et donc, ils se sont dit, finalement, ce sera quand même pour la suivante. Et ici, on y croit, tout le monde doit le faire. On ne sait jamais, on peut toujours avoir un petit revirement. Ça représente quoi, ce qui est stacké sur Ethereum? Ça représente quand même pas mal de brousouf aujourd'hui. Il y a 17,8 millions d'Ether bloqués. Ça signifie quand même un prix de plus de 1 700 $ équivalent, 31 milliards de dollars qui sont aujourd'hui de l'argent qui est totalement bloqué sur la chaîne. Alors évidemment, si demain tu débloques les 31 milliards et que tout le monde se dit bah c'est chouette, j'enlève mes milliards, il va y avoir un gros problème sur Ethereum et probablement que la scène crypto sera à feu et à sang.
Ouais.
Et donc ils ont prévu effectivement qu'il y ait qu'un certain nombre de terres qui puissent être libérées au fur et à mesure, donc à chaque bloc, peu... pour en dire.
Alors le néophyte que je suis, c'est un peu comme des bonus en gros.
C'est ça,
que
tu aurais reçu. Des intérêts si tu préfères. Quoi.
C'est ça, voilà. Donc tu capitalises sur les intérêts, mais tu peux pas les récupérer par contre.
Oui, mais alors c'est pas... définition est un petit peu tricky, parce que si tu considères que la définition c'est un capital et tu reçois des intérêts, alors ça tombe sous le coup de certaines lois aux États-Unis. Là c'est les emmerdes, alors ici donc c'est des bonus.
D'accord.
T'as reçu des bonus.
Voilà.
Voilà, c'est pas réellement des intérêts, mais techniquement ça ressemble quand même très fort à des intérêts, soyons transparents là-dessus quoi.
C'était une solution fiscale pour éviter que les gens se fassent taxer quoi, en gros.
Ouais, on invente un nouveau monde, hein, donc
voilà, c'est ça.
De nouveaux mots et de nouvelles choses.
Ouais.
Chapella,
voilà. Moi, j'aime bien les chats.
Ah ben ouais. Voilà.
Ah ben tu vois, c'est ton nouveau pseudo.
C'est voilà.
C'est pour Chapella.
Chapella, voilà.
Américain, c'est.
Avec un.
Ah ben non.
Avec un. Non, pas là.
Ah oui, Chapella, oui. Non, c'est H.
Je suis déjà fatigué.
Mais
7 minutes 13 de podcast, je suis mort. Je suis épuisé. Ça commence fort.
Je sais pas là.
Voilà. Passons peut-être à la suite, tout simplement. La lettre H, pour passer la parole à David et te parler de AKD. Tous les AKD, toutes les Acadiennes. Bon, bref. C'est du même niveau. Hein.
Avec un H ici.
Avec un H ici, il y avait un AKD à Berlin. Tu veux nous en faire un petit résumé, David?
Oui, donc le AKD Berlin, c'est un événement donc qui était dédié aux passionnés de technologie et aux bricoleurs. D'ailleurs, je pense qu'assez régulièrement, je parle d'articles qui ont été publiés sur le site AKD. Et donc cet événement à Berlin, qui a eu lieu en courant début de semaine, a eu un grand succès et les participants ont proposé pas mal de projets assez intéressants. Il y avait des discussions. Qui montre évidemment une certaine ingéniosité. Pour donner quelques exemples de projets, il y avait un synthétiseur modulaire à faire soi-même, un drone sous-marin, un dispositif de surveillance de l'air, un robot humanoïde. Il y a également eu une discussion qui a parlé des instruments de musique dans Star Trek. Il y a eu pas mal de discussions sur de reverse engineering, donc c'est de pouvoir, en français, comment on appelle ça, ingénierie inverse, un truc comme ça.
Oui, c'est ça. Enfin, oui.
J'imagine sur différentes choses. Donc, dont un truc qui était assez marrant, c'est de pouvoir faire du reverse engineering sur son lave-vaisselle IoT pour l'intégrer à son réseau domotique. Maintenant, je ne sais pas comment le lave-vaisselle va pouvoir faire pour mettre la vaisselle lui-même à l'intérieur.
Non, ça non, je pense pas. T'as plus de chance en demandant au chat.
Oui.
Parce que là, ça n'ira pas.
Maintenant, si on a des tarifs électriques différents la journée et la nuit, ça permet d'allumer son lave-vaisselle de manière automatique.
Ou d'avoir une webcam dans le lave-vaisselle.
Ouais.
Regarde les assiettes qui se nettoient. Tu sais on regarde dans les cuisines, il y en a plein dans les fours maintenant. Toutes les marques asiatiques font des webcams dans les fours pour que tu puisses faire, et on rigole pas, de magnifiques vidéos pour taper sur YouTube.
Mais enfin. Ça, j'ai jamais vu des vidéos de fours. Enfin, j'ai vu des vidéos qui faisaient des fours. On en a quelques-unes nous-mêmes dans notre collection. mais ça.
Tu sais, l'éclairage qu'il y a dans le frigo, quand tu fermes la porte, comment tu sais qu'il s'est bien éteint si tu mets pas une caméra dedans?
C'est le cam dans mon frigo. Qui prend une photo à chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme la porte. Comme ça, quand tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo quand tu fais tes courses? Eh bien, tu as la dernière photo de ton frigo.
Ok. T'es prêt pour le prochain Acadé, en gros, hein. Ceci étant dit, j'ai vu encore, on parle beaucoup d'intelligence artificielle comme toujours. Je voyais, je ne sais plus sur quel site, il y a pas tellement longtemps, tu fais un système, tu fais une photo de ton frigo. Donc, comme tu ouvres la porte du frigo, tu fais juste une photo et l'intelligence artificielle te dit ce que tu peux cuisiner avec ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors évidemment, si t'as juste un pot de mayonnaise et un concombre.
Il trouvera bien quelque chose, t'inquiète pas.
Il trouvera un truc à faire, mais ce sera très très limité. Je veux dire, t'as pas besoin d'une intelligence artificielle pour savoir ce que tu peux en faire.
De ton concombre.
De ta mayonnaise. Mais enfin voilà, c'était un exemple. Fermons la parenthèse intelligence artificielle, je pense qu'on aura l'occasion de la rouvrir plus tard. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce HKD qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, toi, finalement, personnellement, David?
Mais un peu de tout. Moi, j'avais un petit faible pour Star Trek, parce que je suis grand fan de Star Trek. Ils ont parlé des instruments de musique, donc la conception d'instruments de musique non conventionnels, avec certaines expériences qui ont été faites. Un autre truc qui était aussi intéressant, mais bon, dont on a déjà parlé pas mal, c'est l'art génératif. Donc, le pouvoir, il y avait un projet, ça pouvait générer des circuits électroniques répétables à l'infini, et ils appelaient ça des bugs. Un générateur de bugs infini. Il y a pas mal de petits. Je vais dire, il faut lire l'article, il faut lire le résumé de la conférence, parce qu'il y a vraiment trop de choses intéressantes que pour devoir faire un choix. Il parlait également de la manière dont ils ont socialisé. Tu vois que ce sont peut-être des geeks, mais ils savent quand même passer du bon temps. Ils sont pas tous enfermés dans leur caverne tout seuls à parler avec personne. Donc voilà, c'est.
Ils arrivent à s'exprimer et à échanger avec d'autres êtres humains, c'est ça que tu veux dire?
Voilà.
Et ils en sont fiers, ils en font un article, t'as vu? On a parlé avec des gens.
En présentiel, avec des gens matériels, enfin physiques, biologiques, c'est incroyable, c'est une expérience inoubliable. On vous renvoie évidemment vers l'article, on le met comme tous les articles, toutes les sources des news dont on parle dans cet épisode et dans tous les épisodes, on vous met tout ça dans la description de ce podcast ou sous notre vidéo sur YouTube ou sur notre site lestechno.be. Tu voulais rajouter un truc, David?
Non, c'était pas David. J'ai un truc. Oui, David, est-ce que tu as vu dans les propositions de hack un paintball avec un petit peu d'intelligence artificielle pour suivre le gars et lui balancer des trucs, des patates? Parce que ça, je mettrais bien chez moi.
Non, ça, j'ai pas vu.
Ah, voilà, bon.
Ah, hésite alors.
Faut chercher ça.
Mais pourquoi balancer des patates?
Oui, des billes.
Des billes.
Des paintballs.
C'est, oui. Sinon, t'as un site sur le
pinball. J'ai compris, pinball.
Non.
Ah oui, mais donc une tourette automatisée avec une caméra pour viser les intrus, leur balancer.
C'est ça.
Voilà. Des trucs
une
dessus.
Une tourelle de char, quoi, en gros, c'est ce que tu cherches.
C'est ça.
Mais automatique.
Automatique.
Oui, parce que tant qu'à faire. Tu t'installes ça quoi dans ton jardin, c'est ça? L'idée, c'est.
Mon entrée.
Ton entrée, d'accord, ok.
Je peux peut-être te bricoler un truc.
Voilà.
on peut vite faire un truc. Je suis doublement. Enfin, voilà, j'en peux plus. Déjà, je suis mouru. On a fini avec ce sujet ou pas? Oui.
C'est chacadé.
Non, je suis fou. Je suis
chacadé.
Chacadé. La lettre I comme voilà, IA, intelligence artificielle, David Musk et Wozniak, mais pas que, hein, ils sont plus de 1100, je pense, avoir signé une sorte de pétition pour réclamer un moratoire sur l'intelligence artificielle.
C'est bien ça, donc les deux noms les plus connus, c'est Elon Musk et Steve Wozniak. Le premier peut être un peu exubérant, mais le deuxième est quand même quelqu'un de beaucoup plus sérieux, Donc voilà. Il propose un moratoire de 6 mois sur le développement et l'adoption en masse de l'intelligence artificielle, parce qu'ils estiment en fait que c'est nécessaire de faire une pause pour examiner les risques potentiels et les implications éthiques de l'intelligence artificielle. Ils voudraient mettre en place des débats publics pour avoir des discussions avec des experts, des conférences pour évaluer les impacts de l'intelligence artificielle sur la société, et envisager des régularisations, des régulations appropriées. Donc, comme tu disais, il y a de nombreux chercheurs qui apparemment soutiennent cette pétition. Bon, moi personnellement, j'ai pas mal joué avec les produits de OpenAI ces derniers temps, pour ne pas répéter le nom dont on parle de trop. Et c'est vrai que bon, il y a d'une côté la peur qui était un petit peu la mienne, qu'on atteigne un point technologique où on arrive à une intelligence, mais une conscience artificielle. Mais ayant été un peu plus loin dans les détails du truc, je pense qu'on en est encore assez loin. Mais par contre, il y a vraiment beaucoup d'implications, beaucoup d'utilisations qui peuvent être dangereuses. Les systèmes de sécurité qui ont été mis en place sont très facilement évitables, contournables. Voilà, donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de donner 6 mois de réflexion. Maintenant, bon, je suis certain que ça ne va pas empêcher les sociétés de continuer leur développement. D'ailleurs, les nouvelles versions sont déjà en cours de développement. On annonce déjà une nouvelle version au mois de septembre et l'an prochain, la version 5. Mais je pense qu'il est temps de prendre un peu de recul et d'examiner tout ça, parce que c'est quelque chose qui va... avoir un gros impact sur tout le monde et pas que sur les gens qui sont tech.
Oh non, je pense que c'est justement ceux qui le sont le moins qui seront le plus vite impactés, j'ai presque l'impression. Je voyais il y a eu un sondage sur 1000 entreprises aux États-Unis. 25% d'entre elles ont déjà commencé à licencier du personnel au profit de produits de chez OpenAI. Alors, ils n'ont pas viré tout le monde encore, mais ça veut dire quand même que à ce stade-ci, pas encore finalisé, encore en recherche, encore en développement, ça a déjà un impact. Alors imaginez, justement, on parle de 6 mois, on est un petit peu sur cette échelle-là pour l'instant en termes de vitesse de développement. Donc dans 6 mois, imaginez la puissance qu'auront ces outils. Et voilà, moi je pense que la machine, enfin, on a parlé il y a 2 semaines, on avait fait même une petite intro avec Sébastien justement, un peu pour illustrer la façon dont on abordait cette question justement chez les technos, mais je pense que la société n'est pas prête, je sais même pas si elle le sera un jour, et donc voilà, il va falloir faire bouger des lignes pour faire en sorte que effectivement on ne fasse pas tout et n'importe quoi, et que ce soit encore l'humain qui soit à la manœuvre dans les entreprises, dans la vie de tous les jours, etc. Qu'en pense Sébastien? Je te passe la parole, Seb.
J'ai l'impression, si on reprend juste d'un point de vue technologique et remplacement et budgétaire et compagnie dans les sociétés, sur ton article, qu'on est un peu comme le début du cloud où, tu vois, chaque année, t'as un fuzzword, donc un mot magique à toutes les sauces. Cette année, il n'y a pas de doute, c'est l'IA. Et en général, après, t'as beaucoup de boîtes qui en profitent pour vendre plein de trucs à leur sauce. Avec, t'as vu, nous on fait de l'IA. Et puis, si tu vas chercher de l'argent, si tu es un investisseur, si tu fais pas de l'IA, bah t'auras pas un mal. Donc cette année, c'est l'IA. Et avant, c'était le cloud. Et quand tu vois certains trucs, et on en reparlera dans le bonus.
Il y a eu un petit intermédiaire, c'est le métaverse.
Ouais, ça a bien marché. C'est vraiment impressionnant.
et on voit à quelle vitesse ceux qui ont investi, ont commencé à investir, dont...
ils ont licencié tout le monde.
Dont Facebook, hein, ils ont licencié tout le monde pour s'orienter vers l'intelligence artificielle. Je pense que le buzzword, il va durer longtemps. Et il va nous impacter longtemps. Jusqu'au moment où ce sera plus un buzzword et où on n'aura plus le droit de citer, hein, de toute façon.
Tu vois, je sais pas, et l'année prochaine, ce sera peut-être un méca ou, tu vois, t'en sais rien. Hein. C'est début d'année, en général, que tu as la tendance. Et on est début d'année, hein, c'est commencé janvier, février.
Oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est le buzzword du moment, comme il y en a eu plein par ailleurs auparavant. Mais c'est quand même le premier qui déjà impacte la société aujourd'hui. Ce sont des faits, hein, c'est factuel, c'est pas juste...
Oui, mais le cloud aussi, mais 5 ans après, il y a des trucs pour lesquels t'en reviens. Et on n'a pas perdu tous ces gars. Enfin, je sais pas. Enfin, je suis dubitatif. Alors après, sur le moratoire... Ouais, je pense que c'est quand même un peu du flan.
Bah oui et non, parce que marquer une pause pour réfléchir, ce n'est jamais.
Mais qui va marquer une pause ? Tu fais un moratoire, tu dis allez, on va tous gentiment faire une pause. Tu te doutes qu'il y a certaines entreprises qui sont dedans, vont pas licencier leurs gars pendant 6 mois. Celles qui ont du retard, vont pas s'empêcher de prendre, récupérer leur retard. Et puis, éventuellement, ils font un moratoire aux États-Unis. Ok, peut-être. En Europe, éventuellement, mais comme on s'en fout, en Europe, on est loin de tout. Et alors, tu vas demander aux Chinois ou aux Russes de ne pas en développer. Je rigole, hein.
Oui, enfin, moi, quand tu parles des Russes, je rigole aussi, hein, parce que.
Oui.
Ils déposent moins de brevets que le Luxembourg. Les Russes,
bah, c'est clair que niveau GPU et puissance de calcul, ça va être chaud, mais. Jamais sous-estimer le développeur de l'Est. En général, ce sont de très bons mathématiciens.
Oui, mais pour l'instant, ils sont plus là. Enfin, bref. Je pense que. Enfin, voilà, chacun jugera, mais. Je voyais un de nos confrères podcasteurs, Bruno Guglielminetti au Québec, qui avait partagé une photo d'une manifestation de début des années 80, une manifestation d'enseignants qui manifestaient, tenez-vous bien, contre l'usage de la machine à calculer pendant les cours de mathématiques. Aujourd'hui, l'application ChatGPT, pour ne pas la nommer, n'est même pas encore, est encore en phase bêta, machin, etc. Certaines écoles l'introduisent déjà en disant ce serait bien que les jeunes sachent comment s'en servir. Tout va trop vite dans cette histoire et peut-être que lever un peu le pied, réfléchir, prendre le temps de la réflexion au niveau politique, au niveau de l'industrie, etc. C'est pas tout à fait inutile.
Là, tu m'attendais une perche. Alors déjà, je te rassure, dans les écoles, ils ont Internet, mais juste au niveau de la salle des profs. Et pour le reste, il y a pas d'ordinateur. Hein. On est comme il y a 20 ans. Il y a une salle avec 5 profs PC.
Je parle de Sciences Po. Je parle pas de.
Ouais,
de,
mais ça en fait pas beaucoup. Hein, c'est une école.
De la tenue Jacques Prévert à Trifouille-les-Blairettes.
Enfin, c'est. Ouais, mais là.
C'est
la majorité.
Oui, hein, enfin voilà.
Et sur la récupération politique, on a mis dans sur Twitter, mais sur Mastodon, une news cette semaine sur un de nos chers politiciens belges que je ne citerai pas, j'ai pas envie non. du keyword, qui effectivement scandale, quelqu'un s'est suicidé parce qu'il dialoguait depuis des semaines avec une IA et grosse dépression, suicide. Et alors le principe, c'est comme quand tu dis les médias en parlent tous et qui parlent de licenciement, le suicide, on en parle. L'OMS demande qu'on n'en parle pas dans les médias. Parce que, à partir du moment où tout le monde en fait un buzz, ça donne des idées à plein de gens qui se disaient, j'hésite. Non, c'est une bonne idée de faire ça comme ça. Parce que tu cherches une certaine publicité que les médias te donnent. Donc, l'OMS a toute une série de recommandations en disant, vous en parlez pas. Et d'ailleurs, on a fait des études, on l'a démontré que si les médias le traitent pas de manière sensationnaliste, il y a une réduction majeure du nombre de suicides. Et donc que ce soit tout de suite monté en épingle d'un point de vue politique comme ça en Belgique, je trouve ça assez regrettable de donner une telle publicité pour quelque chose de dramatique.
Mais c'est dramatique parce que c'est quelque part et de nouveau c'est un des garde-fous sur lesquels il faudrait réfléchir justement en parlant d'intelligence artificielle, c'est qu'en dialoguant avec un chatbot, le chatbot l'a même un peu encouragé à passer à l'acte. Et ça, c'est quelque chose qui doit être révisé à un moment donné. Il me semble que c'est assez évident. Tu parles à un chatbot, tu lui dis, je mettrais bien fin à mes jours, et le chatbot répond, pousser sur le bouton. c'est pas l'idéal, quoi. Il faudrait quand même trouver à un moment donné quelques limites pour éviter justement ce genre de problème, celui-là et d'autres. Hein. Il y a pléthore de soucis parce que cette chose, comme je le dis souvent, répond comme un stagiaire bourré, quoi. Donc voilà, Que dire de plus ?
Pas fini de parler de ça. Hein.
Ah, je pense que non. Je pense que même certains font maintenant des podcasts qui ne sont dédiés qu'à ça, et on va les laisser causer. La lettre L comme Linux, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Il y a encore des gens qui tapent avec leurs petits doigts sur des claviers pour faire du code, etc. Seb, on parle d'une nouvelle de distribution Ubuntu. Je veux dire, c'est comme ça. C'est de ça dont il s'agit. Non, même pas.
Même pas. Non, alors là, ça, c'est le titre, hein. Ubuntu OTA 1 Focal.
Oui.
Ah, ça rigole pas, c'est de la balle. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas l'image, ça c'est le titre. Hein. Alors Ubuntu OTA 1 Focal, c'est quoi ? C'est Ubuntu Touch OTA 1 Focal. C'est la première release à partir de Ubuntu 20 pour smartphone.
Ah,
okay. Et donc c'est la première avec beaucoup de modifications aussi bien sur la partie UI que sur tout ce qui tourne sous le capot. Je vais revenir un petit peu après sous le capot. Le but ici, effectivement, est de pouvoir disposer d'un Linux, d'un OS libre avec tout ce qui va avec, et pas que pour les barbus. Hein. Il y a le truc est assez bien foutu visuellement. On essaye quand même de faire quelque chose d'utilisable par Madame tout le monde, hein, et Monsieur aussi. Et donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'efforts sur toute la partie graphique. Avec ici, ils ont abandonné le nom Unity et tout ce qui était trop Ubuntu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus passe-partout qui pourrait être utilisé dans d'autres distributions et d'autres, parce que ici le but n'est pas de faire un seul OS Linux, enfin un seul Ubuntu, et c'est vraiment de pouvoir offrir les outils comme GNOME, hein, pour pouvoir le faire en mobile. Et c'est devenu de Unity 8, c'est devenu l'Omiri. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière ? Et alors, pour ceux qui sont sous Linux, bien les précédentes versions étaient sur init, et maintenant on est passé sur systemd. Voilà, ça vous parle absolument pas, mais pour tous ceux qui sont sous Linux, voilà, ça vous dira quelque chose. Et en gros, c'est systemd, ça devient presque le plus gros projet Linux. Ça gère tout, la gestion de la mémoire, la gestion le tir des DNS, la gestion, enfin tout, la gestion des logs, tous les plein de petits tools ont été remplacés, et autant t'as le noyau, autant après de ton OS, si t'as pas systemd aujourd'hui, ça marche plus terrible. Mais alors ce qui est en dessous est intéressant, c'est là qu'il y a la petite côté technologique intéressant, c'est il y a WeDroid. Alors WeDroid, pourquoi c'est en fait un soft qui permet de faire tourner Android. Alors pourquoi ils font tourner Android sous le capot d'une distribution Linux qui tourne sur votre téléphone qui était sous Android avant? C'est parce que en fait
qui tourne sur Linux elle-même.
Qui tourne. Oui, c'est ça.
C'est un noyau, mais il a été modifié, et c'est là qu'est le problème. C'est que la plupart des noyaux ont été modifiés ou ont des drivers spécifiques que certains constructeurs ont fait et qu'ils ont supporté jusqu'à certaines versions d'Android. Et puis à un moment ils disent, et c'est bon, mais mon chip qui a 5 ans, moi je le vends plus, je m'en fous, quoi. Et donc ici ils tournent sur ils font tourner le Lineage OS avec un Android 11, et ce qui leur permet d'aller chercher et récupérer des drivers pour certains composants de téléphone qu'on ne sait plus avoir maintenant. Pour le moment, ils ont leur première version ici, parce que c'est tout chaud, ça sort du four. Leur première version, elle est limitée sur quelques téléphones spécifiques. C'est le Fairphone 4, le Pixel 3a et All 3 Models, et des Vodafone. Vodafone, je ne connais pas du tout les Vodafone, mais ça a l'air drôle. Ça, c'est pour cette première release, mais par la suite, effectivement, on va pouvoir augmenter la gamme, et espérer récupérer des versions d'un OS récent sur des téléphones qui n'ont plus aucune mise à jour de personne. Ce qui était un petit peu le créneau à la base aussi de Lineage OS. Donc là-dessus, ce truc est intéressant pour ceux qui n'ont pas envie de changer leur téléphone parce qu'il a 5 ans et qu'il leur convient et qu'on peut changer l'OS.
Simplement. Dire voilà, mon téléphone est en fin de vie parce que son OS est dépassé ou il n'est plus mis à jour pour X raisons. C'est peut-être l'occasion de, s'il est encore matériellement qui fonctionne encore. Tant que la batterie fonctionne, ou même si on l'a changé, qu'il y a toujours un écran, il y a toujours du son qui sort, etc. Bah, autant oui, mais c'est vrai aussi pour un PC, hein, je dirais. Un PC qui a une petite dizaine d'années, tu lui colopettes un Ubuntu, bah, il va faire encore son boulot pendant un certain temps, si tu veux pas t'embêter avec des versions de Windows qui vont un peu l'étouffer. Donc voilà.
Il y a des trucs que même sous Linux, sont du matériel qu'on commence à considérer obsolète, qu'on ne supporte plus et qui, au fur et à mesure des années, et il y en a eu quelques-uns ces derniers mois, on se dit, bon, c'est gentil, mais on ne supporte plus.
Enfin, du matériel qui remonte à quoi, plus de 10 ans.
Oui.
Donc voilà, moi je parlais de 10 ans. Donc,
oui, c'est des trucs de musée en général.
Oui, c'est ça, c'est des vieux 80-86, c'est des trucs comme ça. On peut comprendre qu'on puisse passer à autre chose. Mais voilà, c'est, moi je trouve ça plutôt pas mal de pouvoir se dire qu'on a cette possibilité de donner une seconde vie à un appareil.
Bon, on n'y est pas encore hein, ici, mais c'est la base, c'est le concept, c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et honnêtement, pour avoir joué avec un Linux Phone et un des gars au bureau aussi pendant un certain temps, ça commence à devenir utilisable. Ça manque encore de quelques trucs, mais ça ressemble à quelque chose, aussi bien visuellement que d'un point de vue fonctionnalité. Et il y a même moyen, en bidouillant un peu, d'installer des applications Android en disant ok, il y a quand même moyen de les faire marcher. Voilà, et je dirais encore peut-être un an et on pourra commencer à avoir peut-être ça de manière utilisable 24/24, ce qui aujourd'hui est quand même encore un peu, il faut le vouloir quoi.
Pour faire tourner une application Android, tu importes, enfin sans entrer dans les détails, mais tu récupères l'APK comme on le fait d'habitude et puis
tu fais tourner les émulateurs hein.
Voilà, si c'est ça, via un émulateur. OK. Bon, voilà. Tout ça est bon à savoir. Et puis pour ceux qui ont envie de bidouiller, tout simplement, c'est bien aussi. Parce qu'on peut avoir envie de bidouiller. On peut avoir envie d'avoir un appareil qui ne parle pas avec monsieur Google, enfin, ou monsieur Alphabet, ou monsieur Apple. C'est un droit aussi. Donc voilà. Je sais pas ce qu'en pense David avant qu'on passe à la suite.
Rien à dire de plus.
Ah, ok. Ils se sont concertés, ces deux-ci, c'est pas possible. On est à la lettre M comme Moore, qui est mort, David. Gordon Moore, l'auteur de la célèbre loi de Moore, nous a quittés cette semaine.
Oui, donc c'est Gordon Moore. Donc c'était le cofondateur d'Intel et donc le père de la loi du même nom, qui s'est éteint à l'âge honorable de 94 ans, ou 94 ans pour les Français. C'était un pionnier dans le développement de la technologie et de l'information. Comme j'ai dit, il avait confondé Intel avec Robert Noyce en 1968. Il a joué un rôle crucial dans le développement donc de l'industrie informatique. Il est l'auteur de la loi de Moore qui dit que la densité des transistors sur une puce électronique double environ tous les 2 ans. Pour donner un petit background, c'était un chimiste et physicien de formation qui s'est spécialisé dans le domaine des semi-conducteurs. Ses contributions, c'était entre autres le développement de la mémoire DRAM, des mémoires flash et des processeurs, évidemment Intel. Donc voilà, c'est quelqu'un de très intéressant, de quelqu'un de qui on parle beaucoup de par sa loi, mais qu'on ne connaît très peu. Et je peux recommander de regarder des petits historiques, comme on le fait souvent pour des gens dont on connaît le nom, qu'on sait qu'ils ont contribué à beaucoup de choses, mais qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'était un petit hommage.
Moi, je trouve que c'est bien d'en parler parce que, enfin, on arrive aussi à, après quelques dizaines d'années maintenant dans le monde de l'informatique, à avoir des gens qui ont créé des choses importantes dont on se sert encore aujourd'hui ou des paradigmes importants qui font encore référence, on va dire, dans ce qu'on fait aujourd'hui, qui maintenant commencent tout doucement à quitter ce monde. On s'en fait l'écho régulièrement avec l'autre Sébastien, qui a l'art entre guillemets, ou alors c'est le hasard.
Le rubrique nécrologique, lui, il aime bien.
Oui, c'est ça, il aime bien, c'est la nécro, et voilà. Mais en même temps, c'est bien de rappeler ce que ces gens ont fait, et de les remettre un peu à l'avant-scène, et donc, comme tu le disais très bien, David, n'hésitez pas à aller farfouiller le web, il doit y avoir plein d'infos sur le monsieur, parce qu'il est connu, évidemment, ça, c'est clair.
Si je peux rajouter un petit truc, c'est que sa loi est morte avant lui.
Oui,
ça fait quelques temps qu'on le répète et qu'on le voit un peu partout, la loi de Moore est morte. Oui. Aujourd'hui, la densité des transistors ne double plus tous les 2 ans. On arrive à des limites physiques et à moins d'avoir un bond en avant technologique, on est un petit peu limité et on doit procéder d'une manière un peu différente. Mais bon, entre la taille des atomes et la vitesse de la lumière, on a certaines limitations qu'on ne sait pas dépasser, en tout cas pas pour l'instant. Et
il avait énoncé à quelle époque cette fameuse loi, parce que j'ai pas retrouvé, par contre, parce qu'on parle toujours de la loi de Moore, mais je ne sais plus, j'ai pas trouvé à quelle année il en avait parlé, parce que ça, c'est rien que cet aspect là pourrait renseigner sur le fait que forcément à un moment donné cette loi se contredirait, quoi.
Je n'ai pas la date exactement, mais je pense que c'était dans les années 70. C'était avant.
Attends, 1965.
Ben voilà, c'était avant. Mais
c'était pas loin, à 5 ans près.
Mais 1960,
ça fait déjà deux doublages que tu avais perdu.
C'est incroyable, quoi. Il y a 57 ans.
Donc, deux doublages. Voilà.
Oui, entre 65 et 70, 2 fois 2 ans déjà que t'as perdu.
Ah oui, fois 4, oui, ok.
Ça fait beaucoup, hein. Sur la fin, c'est beaucoup, hein.
Oui, c'est comme...
C'est vrai.
C'est comme les remboursements d'emprunt.
ça. Il y a eu d'autres morts cette semaine, ils sont tous morts.
Ah, chouette. Enfin,
une rubrique nécrologique.
Ouais, vas-y.
Monsieur Jacob Ziv.
Et qu'a-t-il fait?
Alors Jacob Ziv, c'était le confrère de Abraham Lempel, et qui ont fait Universal Algorithm for Sequential Data Compression, c'est le ZIP.
ZIP? Ah oui, d'accord.
C'est eux qui ont fait le ZIP, donc le ZIP est mort.
Et ZIP... En quelle année?
Oula! Il n'y a pas... 177, le 3 mai 77.
Quand même, c'est pas mal. Hein. Donc comme ça confirme ce que je disais, hein, ces grands personnages du monde de l'informatique nous quittent les uns après les autres.
Alors, qui la semaine prochaine
Qui la semaine prochaine? Donc là, je serai un ancien de l'informatique, je me méfierais. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir rappelé qui était Gordon Moore, David. On est à la lettre P. Comme piratage, GitHub se met de collaborer sur le hack de Twitter, Sébastien. Mais que s'est-il donc passé? Passé?
Mais Gordon Moore, c'était pas un gars dans un Marvel aussi? Non? C'est Gordon.
Non.
Ou un qui faisait de la cuisine? Non plus.
Non, c'est Ramsey.
Ramsey, c'est ça. Ouais. Twitter. Elon Musk, hop là, on retourne à celui-là. Ouais. Là, encore à celui-là.
Fais des phrases, sujet, verbe, complément, parce que là, pour l'instant, juste.
Fâché, procès gagné, GitHub perdu. Donc, notre cher Elon Musk a découvert il y a quelques jours que, tiens, mais mon code source, il est partout sur GitHub, et donc, ils ont envoyé une petite lettre à GitHub, un DMCA request, un fameux truc que tu n'aimes pas recevoir en tant que société, ça te dit, tu y a un piratage, tu dois tout couper, et donc, ils ont reçu ce petit document en disant à GitHub... C'est notre code source, il faut l'enlever. Le gars, tu dois nous donner toutes les informations. Et donc GitHub, qui appartient à Microsoft, dit « Bah non, j'ai pas envie ». Donc ils ont été en justice, ils ont gagné. Et non seulement GitHub doit donner toutes les informations, mais Twitter demande tous les logs qui leur permettraient de savoir qui a posté, consulté, copié, téléchargé le code de Twitter. Donc si tu as juste été regarder le code source et que tu étais connecté sur GitHub, GitHub va devoir donner et dire que David a été voir le code source de Twitter, s'il avait été voir sur GitHub. Donc rien que le consulter, il risque de vouloir prendre des actions. Alors je vois pas qu'a priori c'était que sur GitHub, le fait d'ouvrir une page sur GitHub parce qu'elle code source de Twitter, tu ne sais pas au moment où tu l'ouvres que c'est une infraction.
Faut pas demander ce qu'il y a dedans. Oui, David.
Est-ce que ça a un rapport avec la nouvelle que Microsoft a viré toute l'équipe indienne de GitHub?
Non,
alors... non, mais c'est une vraie nouvelle, ça.
C'est une vraie nouvelle. On ne fait que des vraies nouvelles, David. On ne les invente pas, contrairement à d'autres. Donc, voilà.
Oui. Non. Et donc, ce qui est amusant, parce qu'effectivement, tu dis, ah oui, mais qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Et c'est là que c'est drôle, c'est qu'il y a un peu plus d'un mois, Elon Musk annonçait sur Twitter, oh, mais on va publier en open source le code de Twitter la semaine prochaine. Bon, c'était que courant du mois de février, on est quand même largement passé la semaine, on n'a toujours rien vu venir. Ouais. Je suppose que ça arrivera en même temps que la conduite autonome sur la Tesla. j'ai rien dit, c'est quelqu'un qui a dit ça, mais j'ai pas dit ça.
Non.
Ils ont, alors GitHub collabore, mais en même temps ils traînent un peu la patte, hein, donc ils essayent de donner le moins d'informations possible, et en même temps, parce que Twitter leur a demandé, tu dois enlever les codes sources, mais si quelqu'un l'a copié ou fait quoi que ce soit sur GitHub, tu dois aller l'enlever aussi. Et GitHub dit, ah ben non, moi le principe c'est que les gens font des copies du repo, font une modification sur le truc, et donc tout le monde le copie à foison. Si tu veux qu'on le retire d'un autre repo, donc d'un autre container, enfin d'un autre endroit, tu dois nous le dire aussi. Nous, on va pas s'amuser à aller regarder le code source de tout le monde pour voir si quelqu'un a un petit morceau du code de Twitter. Donc, les avocats de Twitter sont un petit peu agressifs. GitHub est un petit peu moins collaborant. Affaire à suivre.
Oui, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas d'issue. En l'occurrence, tout le monde reste sur ses positions.
Non. Et on ne sait toujours pas qui est Monsieur Free Speech enthousiaste, sachant que Elon Musk a aussi publié que lui, il était un Free Speech absolutiste avant que Free Speech enthousiaste ne publie tout son code source.
Ceci dit, avec le nombre de gens qu'il a licenciés ou qui sont partis depuis son arrivée, etc., il fallait bien qu'à un moment donné, il y en ait un qui cherche un petit moyen de se venger. En même temps, je trouve que c'est assez logique qu'il y ait des garde-fous dans la position de GitHub pour blinder leur position, mais aussi blinder les droits des ayants droit de certains codes. Il faut que le dialogue se passe, parce que c'est un outil tellement puissant, GitHub, quelque part, pour partager du code, que ce serait assez facile pour n'importe quel mec ou fille qui a envie de mettre à mal une entreprise, d'aller y publier du contenu, quoi.
Mais t'as d'autres tools, t'as Pastebin ou autre, où tu peux aller copier, et là... Ouais. T'as aucune chance de réussir à arrêter les copies de ton code source.
Ici, on parle de toi, par contre. Tu vois, c'est moins underground, on va dire. C'est plus en vue, quoi. Donc, ça fait plus de bruit, ça fait plus mal. Donc, voilà. David, un commentaire de plus? Une vraie news pour changer?
C'est une vraie news. Elles sont toutes vraies.
Ah oui, mais voilà, j'aime te l'entendre dire. La lettre R, comme restrict, en majuscule, s'il vous plaît, David. 20 ans de prison pour utiliser un VPN. Non, le Restrict Act n'interdit pas TikTok au VPN. Que s'agit-il tout? Quoi donc? Quoi? Hein?
Tu vas sur TikTok?
C'est pareil.
Non. Moi, TikTok, j'en fais une allergie. Donc, le Restrict Act, donc c'est une proposition de loi américaine. Restrict, c'est un mot, et c'est également les initiales de Restricting the Emergency of Security Threats that Risk Information and Communication Technology Act. Donc, c'est... c'est un acte pour la restriction de l'émergence des menaces à la sécurité qui risque et risque. Enfin bon, bref, voilà. Je me comprends. Je me comprends.
Tant mieux.
Désolé.
Ce serait dommage de ne pas se comprendre.
Donc voilà, c'est un projet de loi. Pour ne pas expliquer le nom, c'est un projet de loi qui vise donc à protéger la sécurité nationale des États-Unis en se concentrant sur des produits et services de technologie, de l'information, de la communication. On a parlé de TikTok et on a fait courir la rumeur que les gens qui utiliseraient TikTok pourraient, via un VPN, pourraient prendre 20 ans de prison. Ce n'est pas exactement ça en dessous du capot. La législation ne veut pas cibler les utilisateurs ordinaires, mais plutôt cibler les sociétés et les pays qui voudraient contourner des restrictions, des sanctions économiques. Il propose en effet une sanction de prison qui peut aller jusqu'à 20 ans dans toute personne impliquée et jusqu'à 250 000 dollars d'amende. Par contre, là où ça fait de remous également, c'est dans le domaine de la crypto-monnaie parce que beaucoup de personnes dans cet univers y voient la porte d'entrée pour les États-Unis interdire ou contrôler de manière très agressive les crypto-monnaies. Parce que la loi qui est, c'est un projet de loi, ça n'a pas encore été voté, mais apparemment ça avance très bien parce qu'il y a déjà plus de 400 représentants du gouvernement américain qui ont signé ce projet de loi. Ça pourrait ouvrir la porte donc à pouvoir punir toute personne qui serait impliquée dans une transaction financière avec une entité sanctionnée. L'utilisation d'applications, maintenant ça pourrait être une application qui est un cold wallet ou un service financier interdit. Également d'utiliser des applications ou des services dans des pays entre guillemets interdits par les États-Unis. Donc voilà, a priori l'utilisateur de TikTok qui serait bloqué potentiellement aux États-Unis ne se retrouve pas en prison pour avoir utilisé un VPN pour l'utiliser, mais trois petits points, il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient mal tourner.
C'est une conclusion, effectivement. Si le sujet vous intéresse, parce que c'est fouillé quand même, hein, tu nous as mis trois sources, ça vaut quand même la peine, si le sujet vous intéresse vraiment, d'aller piocher dans nos sources, dans la description de cet épisode, ou sous la vidéo sur YouTube, évidemment, comme toujours, ou sur notre site internet, lestechno.be. Est-ce que, Sébastien, tu avais un truc à rajouter sur ce restrict ? Strict.
Oui, ça voulait dire quoi ?
Non merci. Donc voilà, c'est non seulement c'est un mot, mais en plus c'est un acronyme. Donc voilà, c'est qui veut dire la même chose.
Les mecs, ils ont quand même dû passer un temps hein, pour se dire.
En fait, c'est un métier.
C'est un métier. Ou c'est une IA.
Ou c'est une. Peut-être que maintenant il y a des IA qui font ce genre de travail effectivement.
Des acronymes,
effectivement. Je sais pas. Donc
des chacronymes.
Ou des chacronymes. Ouais. Oh, on va encore parler de Twitter, chouette. C'est...
Pour une fois, tu vois.
T'es comme Twitter encore, Seb. Twitter, alors que Seb, c'est peut-être celui d'entre nous qui est le moins souvent sur Twitter. Hein.
Jamais. Je reçois 500 notifs par jour et ça m'emmerde.
Voilà, il est plus souvent sur Mastodon, c'est vous dire, que sur Twitter. Donc,
oui,
voilà.
J'ai même pas le cul en Mastodon.
Et donc, je rappelle que nous partageons notre veille technologique également sur Mastodon. Pour le bot, c'est 100 € et en entreprise, ce ne sera rien. C'est encore une des restrictions, un des tarifs proposés par Elon Musk.
Ce sera le rein, pas rien. Le rein.
Le rein. C'est mes
R-E-I-N.
Yeux.
R-E-I-N. Le rein.
Le rein. Okay.
Le rein.
100 € pour un rein, c'est pas cher.
100 €, c'est ça. Voilà. C'est voilà.
Voilà. Là, c'est bon ça. Avec notre bonne petite accent. Je suis sûr qu'on va avoir quelque
chose. Oui, bien sûr. On recrute à mort là.
Recruter. on est mal.
C'est la fatigue.
C'est complètement. Et donc, on en avait parlé. Je me demande si c'était même pas moi que c'est mort l'API Twitter gratuite. Genre, ça coupe demain. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait, hein, quand ils l'annoncent, ce genre de truc, ils le font. Et si t'es pas content, t'es pas content, hein, voilà. Et un mois et demi plus tard, ils ont quand même un nouveau truc qui est une nouvelle API, qui en fait est la même chose que l'ancienne, mais avec quelques petits trucs en plus, c'est que maintenant, tu mets des petits sous-sous de ta poche sur le petit compte de Elon Musk. Alors, il n'y a plus d'accès gratuit, ça c'est fini. Donc, si tu veux, il y a un accès basique. Alors, l'accès basique, c'est 100 boules par mois. Avec 100 boules par mois, tu vas pouvoir envoyer quelques milliers, 1500 postes par mois, un truc comme ça. Par contre, si tu veux effectivement monter, bah là ça commence à chiffrer. Tout n'est pas encore à 100% clair. Tu vas pouvoir faire jusqu'à 10 000 requêtes par mois ou 50 000 postes, mais ça c'est en mode hobby, student. Mais celui-là c'est pas encore sûr. Par contre, si tu veux y aller un petit peu plus franco et que tu es une société, là ça chiffre, ça c'est 42 000 euros par mois.
Ah oui,
42 000 euros pour un accès où effectivement bah là tu peux gérer, peut-être que tu pourras faire deux fois plus de tweets, non, alors là tu pourras aller de 500 000 à 2 millions de tweets par mois.
Mais ça vise les sociétés qui mettent à disposition des outils pour faire du community management et faire du postage différé et etc et tirer des statistiques et
ouais autres, mais c'est ce genre de boîte ou développeurs, mais la plupart de ces boîtes ne sont pas capables de sortir 40 000 euros par mois pour avoir un accès.
Vu les tarifs qu'ils pratiquent avec leurs clients, ça m'étonnerait pas, franchement.
Ouais,
c'est un million de tweets, c'est beaucoup.
Et un million de tweets, c'est beaucoup, donc il y a moyen de voir venir. Oui. Donc non, je pense qu'ils doivent avoir les moyens. Je pense que c'est bien calculé. Ils doivent avoir les moyens de payer, mais ça va pas leur faire plaisir, ça c'est sûr.
Ah non, ça tu m'étonnes.
Ça va.
Voilà. Sinon pour le reste, il y a franchement rien d'intéressant.
Il y a aussi un autre truc où il faudra être blue, c'est-à-dire avoir la petite pastille bleue et donc payer pour ça. Je sais plus, je connais pas les tarifs et à titre personnel ça ne m'intéresse pas. Donc chacun verra ce qui l'intéresse là-dedans. Mais par exemple, si t'es pas blue, tu vas plus pouvoir poster de sondages sur Twitter par exemple ou répondre à des sondages. Il faut avoir la petite pastille pour pouvoir dire je n'ai pas d'avis par exemple. Voilà, c'est encore une fonctionnalité de moins et un intérêt de moins pour ce réseau social que Elon Musk est en train de tuer à petit feu, hein. Il y a pas photo.
C'est comment on gaspille 40 milliards
C'est incroyable. Moi je trouve ça fabuleux. Enfin, il faut quand même le vouloir, quoi. Et ce qui est un peu dommage quelque part pour ceux qui comme nous, enfin nous on partage notre veille technologique et on échange éventuellement de temps en temps avec quelques-uns de nos auditeurs ou Twittos ou autres sur ces réseaux sociaux, c'est que ça nous pourrit un peu la vie parce qu'il n'y a pas réellement de remplaçant. Il y a Mastodon certes, mais c'est pas, on peut pas dire que ce soit Twitter, c'est pas l'équivalent de Twitter. Mastodon, ça fonctionne différemment, le fonctionnement est différent, l'intention est différente aussi. C'est bien d'y être, je pense, mais c'est pas, voilà. Et là, Twitter, si quelqu'un a une bonne idée de réseau social un peu ouvert, comme l'était Twitter au début, et avec peut-être aussi une nouvelle impulsion, un nouveau regard, parce que le web évolue et notre manière de communiquer également, ça vaudrait peut-être la peine de se pencher sur cette problématique. Parce qu'il y a des trucs qui ne passent pas les filtres. Hein. Chez nous, Telegram, par exemple, il y a très très peu d'Occidentaux sur Telegram, en fin de compte. Hein. Alors que c'est une plateforme qui fonctionne très très bien. Il y a plein de bonnes idées sur ce truc-là. Voilà. Enfin, voilà. À vous de voir. N'hésitez pas à commenter cette news si ça vous chante, si ça vous intéresse, si ça vous passionne ou pas. On se fera l'écho de vos réflexions éventuellement.
Mais peut-être pas sur Twitter.
Mais peut-être pas sur Twitter, du coup. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà.
On n'a pas la pastille bleue, nous. Tu vois.
Non, on n'a pas l'intention de payer pour ça, hein, soyons clairs. On a mieux à faire avec nos sous. Évidemment. Merci beaucoup.
J'ai jamais posté même un tweet.
Voilà. Fais-le vite
avant que ce ne soit payant.
Le premier est gratuit.
Oui, c'est ça, j'ai tout le réseau social où le premier tweet est gratuit, après tout est payant. Lire est payant, poster est payant, voilà.
En parler. Mais c'était le Minitel, quoi.
Oui, c'est ça. Mais peut-être qu'avec Elon Musk, peut-être que même en parler va devenir en payant. Tu vois, il va demander au podcasteur de le payer. Tu vois, qui sait, avec lui, tout est possible. Par contre, il n'a pas prévu de signer un moratoire de 6 mois avant de commencer à péter Twitter. Il aurait pu quelque part parce que.
Mais il a été vite, hein.
Oui, oui, ça va très très vite. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, dont Twitter évidemment, mais aussi Facebook. N'hésitez pas sur, je sais pas, Mastodon, à mettre des étoiles, à partager, etc. Rentrer en dialogue avec nous, même si tous les chroniqueurs n'y sont pas ou ne sont pas nécessairement hyper actifs sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je me fais fort de dès que j'ai le temps lire vos messages. Soyons clairs. Oui,
Seb. Si je peux, oui. Et à ce propos, même si on répond pas tout. Il faut savoir que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que nous, quand on poste nos news pour pouvoir définir nos sujets pour la semaine, on vous les renvoie sur Mastodon, plus sur Twitter, a priori. Ça passe encore.
Oui, encore. Ouais, ça passe encore.
Ouais, c'est bientôt fini. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on récupère aussi vos commentaires et oui. qu'on lit tous. Et donc, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas répondu qu'on ne l'a pas lu. On lit tous les commentaires. Oui. Et effectivement, donc là, quelle que soit la source, c'est réagrégé. On a notre petit truc. Et donc, on lit tous vos commentaires.
Pour être très complet, par exemple, les plateformes de podcast, vous pouvez laisser des commentaires, mais c'est pas fait pour dialoguer. C'est cette plateforme de commentaires-là, c'est juste laisser un petit message. Donc là, on les lit, on acquiesce. On s'en fait l'écho éventuellement dans un épisode, mais on peut pas vous répondre. Donc c'est un peu ballot, même si c'est toujours bienvenu de dire un petit mot d'encouragement sur Apple Podcast par exemple, ou sur une autre plateforme, ou de mettre des étoiles comme je le dis souvent. Vous êtes les bienvenus aussi pour ça. Mais on vous lit effectivement, et quand je tombe sur un message sur une plateforme un petit peu exotique à laquelle nous ne sommes pas raccordés, je la copie. Je la partage avec mes petits camarades.
Oui, c'est important de savoir que t'es lu. Donc, voilà, on vous lit.
Tout à fait. Donc il fallait le dire. Merci à tous les deux. On va se retrouver bien vite parce qu'il y a encore des choses à dire. Hein. Il va y avoir un bonus comme chaque semaine évidemment. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme toujours, à, je le disais, commenter et partager cet épisode avec vos amis si cet épisode vous a plu évidemment. À très bientôt. Salut.